RFI, 20h à Paris, 19h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, Israël qui suspend l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Objectif, faire pression sur le Hamas qui refuse une proposition américaine prévoyant une extension du cessez-le-feu et une remise immédiate de la moitié des otages restants. Fin du sommet européen à Londres sur la sécurité européenne et sur l'Ukraine. Il faut d'urgence réarmer l'Europe, insiste ce soir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et puis on ne sait toujours pas quand sortira le prochain rapport du GIEC. La réunion en Chine qui devait le décider n'a pas abouti, dommage. Dans 3 ans, les pays signataires de l'accord de Paris devront évaluer leur progrès dans la lutte contre le changement climatique. Le 7e rapport du GIEC sera alors bien utile. C'est peut-être d'ailleurs ça le problème, nous dira Stéphanie Schuller. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle au rétablissement immédiat de l'aide humanitaire à Gaza. Israël a annoncé ce dimanche qu'elle suspendait l'entrée de cette aide après le refus par le Hamas d'une proposition américaine prévoyant une extension du cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril et une remise immédiate de la moitié des otages restants, morts et vivants. Pour le moment, pour le mouvement islamiste palestinien, accepter cette proposition, ce serait permettre à Israël de se soustraire à ses engagements. La deuxième phase de la trêve devait entrer en vigueur ce week-end, mais la situation est bloquée. D'autant qu'après la suspension de l'entrée de l'aide à Gaza, le Hamas dénonce maintenant une violation de l'accord de cessez-le-feu. L'Égypte hausse aussi la voix. Le ministre des Affaires étrangères, Bader Abdelati, appelle à une mise en œuvre fidèle et intégrale de l'accord.
S'agissant de la seconde phase du cessez-le-feu, chaque partie au conflit doit mettre en œuvre ses obligations. Un accord a été signé. Cet accord doit être appliqué et il inclut l'entrée complète de l'aide humanitaire. L'emploi de cette aide comme une arme, comme un moyen de punition collective pour affamer la population ne doit pas et ne peut pas être accepté. C'est intolérable, inacceptable et représente une violation flagrante et explicite du droit international humanitaire.
Le ministre des Affaires étrangères égyptien Bader Abdelati. Il faut d'urgence réarmer l'Europe. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne ce soir à la sortie du sommet de Londres sur la guerre en Ukraine et sur la sécurité européenne. Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle allait présenter un plan global sur la manière de réarmer l'Europe dès ce jeudi lors du sommet spécial de l'Union européenne sur la défense. Elle a aussi parlé de discussions bonnes et franches des 18 dirigeants de pays alliés qui étaient réunis donc aujourd'hui autour du président ukrainien. Et elle a évoqué le besoin de garanties de sécurité globale pour l'Ukraine dans l'avenir. La présidente de la Commission a un message pour les États-Unis. On l'écoute.
Nous sommes prêts, avec vous, à défendre la démocratie, à défendre le principe selon lequel il existe un état de droit, selon lequel vous ne pouvez pas envahir votre voisin et le tyranniser, ou vous ne pouvez pas modifier les frontières par la force.
À ce propos, le Premier ministre britannique Keir Starmer a indiqué que la Grande-Bretagne était prête à déployer des avions dans le cadre d'une opération de maintien de la paix en Ukraine. L'Europe doit faire le gros du travail en Ukraine, mais avec le soutien des États-Unis, a-t-il insisté. En Iran, le Parlement révoque le ministre de l'économie. Abdel Nasser Emati, en poste depuis le mois d'août, faisait face à une forte dépréciation de la monnaie nationale, le rial iranien, qui s'est accélérée depuis l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump. L'inflation très forte pèse aussi lourdement sur les ménages. Depuis 2019, elle est supérieure à 30% par an. Quand le prochain rapport du GIEC sortira-t-il ? Le GIEC, vous le savez maintenant, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et la question de ce futur rapport s'est posée pendant toute la semaine en Chine, à Hangzhou, où s'étaient réunis les membres du GIEC, mais aussi les représentants gouvernementaux des 195 pays qui devaient adopter le calendrier pour la publication du rapport. Le sujet est important parce qu'en 2028, les pays signataires de l'accord de Paris devront faire leur bilan mondial pour évaluer leur progrès dans la lutte contre le changement climatique. Et le 7e rapport du GIEC serait évidemment une base de négociation précieuse. Mais la nuit dernière, la réunion en Chine s'est terminée sans qu'aucune date de parution ne soit fixée. Stéphanie Schuller.
Les décisions au sein du GIEC se prennent par consensus, mais même après des négociations marathon qui ont duré toute la semaine, ce consensus a fait défaut. Les représentants gouvernementaux de plusieurs pays producteurs de pétrole ou grands pollueurs, dont les émissions augmentent, comme ceux de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de la Russie et de l'Inde, se sont opposés à une publication du 7e rapport du GIEC avant 2028 et donc à temps pour servir de base au prochain bilan mondial des pays signataires de l'accord de Paris. De leur côté, certains pays africains et latino-américains se sont montrés également réfractaires parce qu'ils souhaitent que les travaux de leurs propres scientifiques ainsi que les connaissances des peuples autochtones alimentent davantage la rédaction du rapport. Au petit matin de ce dimanche, la réunion du GIEC s'est achevée sur un accord qui prévoit certes la poursuite des travaux scientifiques sur le 7e rapport, mais sans fixer le moindre calendrier pour sa publication. Les défenseurs de l'environnement ont dénoncé une impasse qui ne sert qu'à retarder l'action climatique.
Dans le nord du Japon, des milliers d'habitants ont dû être évacués pour cause de feux de forêt, des feux qui ont commencé mercredi, tuant au moins une personne et ravageant une zone d'une taille inédite depuis 1992. L'année dernière, l'année 2024, avait été la plus chaude jamais enregistrée au Japon. À La Réunion, la route du littoral reliant l'ouest au nord de l'île a été rouverte à la circulation. Sur l'île de l'océan Indien, l'heure est au nettoyage après le passage du cyclone de Garance, qui a fait 4 morts et 5 blessés. Les réseaux électriques sont en train d'être progressivement mis en route. 90 000 personnes, soit 21% des abonnés, sont toujours privés de courant. 21 pylônes ont été détruits par le vent. RFI, 20h06 à Paris. Il a débuté hier pour près de 2 milliards de musulmans dans le monde. Le ramadan, le quatrième pilier de l'islam, un mois sacré de jeûne placé sous le signe de la solidarité et du partage entre les croyants. L'occasion pour certains étudiants d'augmenter l'aide qu'ils apportent, entre autres, aux plus démunis. Reportage à Paris de Sarah Yasmine Ziani.
Maïko, mon père école pour construire un puits au Mali.
À l'heure de la prière médiane, des étudiants de l'association Ensemble pour le Bien en appellent aux dons des croyants qui entrent dans la grande mosquée de Paris. Anaël, 20 ans, en fait partie.
Aujourd'hui, on est là pour un projet, c'est une construction de puits au Mali. Donc on a un budget de 4000 euros, là on va attendre la somme. Là c'est le premier jour de ramadan, on a beaucoup plus récolté que d'habitude. On est peut-être vers les 400-500, alors que de base on récolte environ 200-300.
Merci.
Des maraudes et des récoltes de dons, Jana en fait aussi. Cette étudiante en prépa UNS a la chance d'habiter avec sa famille, quand d'autres souffrent parfois de l'isolement.
J'ai une autre copine qui est musulmane aussi, qui n'a pas sa famille à Paris. Donc elle, c'est beaucoup plus compliqué pour le soir, puisque bah, déjà il y a la précarité étudiante. En plus de ça, de base le ramadan c'est un mois convivial, on partage des grands repas. Elle doit faire ses repas toute seule quand elle rentre. Et donc vraiment ça peut être très compliqué pour les étudiants en général.
Alors Jana n'hésite pas à inviter ses amis pour la rupture du jeûne.
Le mois de ramadan c'est avant tout un mois de partage, un mois d'entraide. C'est important de faire des bonnes actions. Et justement, c'est ce qu'on appelle la sadaka, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aider les plus démunis et donner le plus qu'on peut donner.
Et à Paris, le collectif des étudiants musulmans de France organise des distribution alimentaire plusieurs soirs par semaine.
Un reportage de Sarah Yasmine Ziani. Après un mois et demi de voyage, un robot s'est posé sur la face nord-est de la Lune. Le Blue Ghost Mission 1 s'est posé à 8h34 du matin. Il avait été lancé par la société américaine Firefly Aerospace pour le compte de la NASA. C'est la deuxième fois qu'un appareil privé réussit un alunissage. Le premier, c'était la sonde Odysseus en février de l'année dernière. Laurence Théo.
50 ans après la fin du programme Apollo, les Américains sont de retour sur la Lune. Après 45 jours de voyage, l'engin spatial privé Blue Ghost a donc réussi à se poser doucement ce dimanche de mars à 9h35 heure de Paris sur la surface lunaire. Plus fort encore, une manœuvre périlleuse lui a permis d'alunir exactement à l'endroit prévu, c'est-à-dire sur une formation volcanique qui se trouve sur la face nord-est de la Lune. Ce robot compact doré de 2 mètres de haut et de 3,5 mètres de large transporte divers instruments scientifiques de la NASA, à son bord un outil pour forer le sol lunaire et analyser ses températures ou encore un appareil photo. Ces expérimentations permettront aux scientifiques d'étudier par exemple le mystère de la poussière lunaire. Blue Ghost fonctionnera pendant 14 jours terrestres et devrait également immortaliser au cours de son séjour un crépuscule ainsi qu'une éclipse totale de lune, un événement survenant quand l'astre passe dans l'ombre de la Terre.
Laurence Théo, du foot en Ligue 1. Lyon s'est imposé difficilement ce dimanche à domicile face à Brest, 2-1. Et puis foot, mais surtout justice. À partir de demain et jusqu'à jeudi, Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, comparaissent pour escroquerie en Suisse. Ils avaient été acquittés en première instance en 2022. Ils seront jugés à partir de demain pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Décision attendue le 25 mars. RFI, 20h10 à Paris, 19h10 en temps universel.